Bonsoir et bienvenue sur les podcasts de Gameblog.fr. Et ce soir pour moi c'est un immense honneur que de recevoir autour de la table à repasser officielle de Gameblog Julien Hubert, Angel Davila, Grégory Schrigizer, c'est pas facile, et Arnaud Chaudron. Et ce soir nous allons parler ensemble des jeux qui font l'événement. Eh bien voilà, vous l'avez entendu, pour ce nouveau podcast sur Gameblog.fr, nous allons parler des jeux qui ont fait l'actualité, en tout cas un, je vous le dis tout de suite, hein, c'est BioShock. Fatalement, vous êtes déjà probablement très nombreux à vous y essayer en ce moment même. Certains l'ont d'ailleurs fini, dont parmi nous, hein, au sein de cette rédaction, je crois, CAF.
Oui.
Toi, tu as eu la chance de pouvoir le finir.
Bah, ce week-end, oui, avec des petits yeux et pour me faire tuer par ma femme après, parce que je me suis couché à 8h du mat à peu près.
Parfait. Bah, on reviendra.
Si ça, c'est pas un signe. Hein.
C'est voilà. Clair. Ouais, clairement, ce jeu est très, très addictif. On aura l'occasion d'y revenir très, très vite dans quelques secondes, donc ne zappez pas. Mais nous parlerons aussi de titres qui vont faire l'actualité. Alors, on vous dit pas encore en bien ou en mal, on en reviendra dans ce podcast. Donc, Heavenly's World, Mario Galaxy, Wii Fit aussi, qu'on a eu la chance d'essayer très récemment, Metroid Prime 3, Folklore et Stranglehold. Aussi pour faire un petit point sur ces titres qui arrivent dans les semaines, jours, mois à venir. Il y en aurait bien évidemment plein d'autres sur lesquels on aurait envie de parler, mais ne vous inquiétez pas, ils arriveront dans les podcasts à venir de Gameblog.fr. Alors pour commencer, eh bien, honneur à un jeu qui nous fait à peu près unanimement triper ici, puis vous derrière votre écran à essayer d'écouter le son fantastique des podcasts de Gameblog, vous devez être aussi très nombreux, c'est BioShock. Alors BioShock, fatalement, on va commencer par toi Arnaud.
C'est pas moi qui ai fait le test en même temps.
C'est pas toi qui as fait le test, mais tu as eu la chance de le terminer. Alors ta première sensation, et puis après, effectivement, Raon reviendra dessus pour revenir un peu plus en détail.
C'est un des meilleurs titres en FPS de ces dernières années. Mmh. Voilà, maintenant je l'ai fini, j'en suis sûr. Avec un vrai scénario qui évolue tout au long de l'aventure, avec des rebondissements qui sont bien amenés, qui sont bien distillés, qui en plus vont varier selon la façon dont on a joué. Et on va essayer d'éviter tous les spoilers
en
parlant, donc ça va être un peu
crainte.
Compliqué.
C'est l'image de marque de Gameblog, hein, bien sûr. On n'est pas là pour vous spoiler, on est juste là pour vous dire warning si c'est un mauvais jeu ou ruez-vous dessus si c'est un excellent jeu.
Vous pouvez ruiner une nuit, donc je l'ai fait. Mm-hmm. La meilleure idée du jeu qui est extrêmement bien exploitée, c'est tout ce qui est donc les journaux audio qu'on peut récupérer en cassette pendant toute l'aventure. Mm-hmm. C'est pas un gimmick du tout, c'est vraiment quelque chose qui fait évoluer l'ambiance. Il y a des gens qu'on va pas du tout rencontrer dans toute l'aventure, mm-hmm. qui prennent corps, qui existent, qui sont déjà morts, donc on va croiser leurs cadavres.
C'est pour ça qu'on les rencontre pas, c'est qu'ils sont un peu morts.
Voilà, ils sont un peu mal tous. Et effectivement, c'est les trucs audio sont fantastiques pour faire avancer l'histoire en fait.
Et puis surtout quelque part ça permet d'avoir une double lecture, c'est-à-dire que les gens qui sont vraiment très typés FPS et qui finalement s'en fichent un petit peu du scénario vont pouvoir le survoler puisque c'est des
exactement.
Audio, en plus on a l'opportunité de les prendre ou pas, et puis ceux qui veulent rentrer un peu plus en détail ils pourront.
Mais si tu les prends pas, tu vas te retrouver quand même un peu emmerdé parce qu'effectivement t'as des trucs audio où tu vas avoir par exemple des codes de porte.
Ah, effectivement. Donc voilà. Un indice chez vous, prenez-les
tous. Je savais pas, mais
Julo.
Ouais, moi j'avais fait à l'époque le premier niveau entre guillemets avant que le jeu sorte sur PC, et le développeur qui était là donc il était très fier de pouvoir dire justement moi je supporte pas les jeux dans lesquels il y a des cinématiques que t'es obligé de voir, qu'on veut te développer le scénario devant ta gueule sans que tu puisses rien faire, etc. Et le mec donc était très fier du fait que tu peux finir le jeu sans écouter toutes ces notes audio quoi. Donc voilà.
Alors bien évidemment, il y a aussi quelques petites cinématiques en temps réel.
Je crois qu'il y en a une ou deux.
Il y en a
maxi,
une ou deux, ouais, c'est distillé vraiment avec parcimonie. Raon, tu as eu l'occasion aussi de t'y plonger et je crois que
sans déconner.
Ça te plaît.
Bah oui, je pense que là, on peut pas. Enfin, il suffit de relire le test. Moi, j'ai à peu près dit mon sentiment là-dedans. Maintenant, j'ai pas trop parlé de certains reproches qu'on peut lui faire quand même parce qu'il n'est pas non plus. Au-delà de ça, et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut lui reprocher.
Quelles sont les choses que toi tu lui reproches, ou que tu pourrais lui reprocher?
En soi, il a rien de révolutionnaire. Ouais. C'est pas forcément un reproche. Hein. Il y a des tas de jeux qui sont pas révolutionnaires, mais qui sont très bien quand même. C'est son cas aussi. Mais il y a des petits trucs où j'aurais aimé qu'ils aillent beaucoup plus loin en fait que ceux où ils ont été quoi.
Comme
par exemple le réalisme de la population qui reste encore dans Rapture, où tu vas voir des scènes qui sont vachement sympas sur lesquelles tu vas tomber. La plupart sont scriptées. Seront agréables, mais j'aurais bien aimé par exemple qu'il y ait une vraie logique dans le comportement des chrosomes, qui sont donc les ennemis qui peuplent Rapture, qui sont des gens qui sont devenus complètement débiles à cause des modifications génétiques.
On a trouvé Candy qui... dans un des couloirs d'ailleurs.
Exact, exact. Et il était le plus débile de tous. Et donc ces gens-là courent après, comme nous, la dame, qui est une des ressources, c'est la ressource la plus importante du jeu. Et quand on en vient à libérer une petite fille de son protecteur, puisqu'on ne peut pas interagir avec les petites filles avant que son protecteur soit abattu, si on la laisse planter là, par exemple, tous les chromosomes qui sont autour devraient se jeter dessus pour avoir son Adam, quoi. Ouais. Et en fait, c'est pas le cas, par exemple.
Ouais, c'est des choses
comme ça et plein de petits détails comme ça qui, avec du recul, deviennent un peu gênants, quoi.
Alors justement, puisqu'on parle des petites filles, moi j'avais un point que je voulais souligner, c'est je trouve.
Ce n'est pas sale.
Déjà, ce n'est pas sale, mais alors effectivement, il y a un point qui a fait beaucoup de débat au niveau de la presse, on va dire généraliste, essentiellement aux États-Unis, sur justement ce choix qu'on avait entre choisir de tuer ou de sauver la petite fille. Je pense que franchement, pour les gamers, c'est un choix assez futile, surtout quand on voit de laquelle manière on les tue, puisqu'en fait, on leur enlève leur mal, quelque part. Mais c'est surtout que, en revanche, sorti de ce choix-là, qui est où tu appuies sur X ou Y en fonction du choix, si tu leur tires dessus, elles ne meurent pas. C'est quand même paradoxal.
Oui, parce que tu ne peux pas les buter parce que justement, ça fait partie du scénario, elles sont invulnérables. Mais d'ailleurs, c'est bien vu parce que vu les combats que tu fais contre leurs protecteurs, justement, il vaut mieux qu'elles soient invulnérables parce que sinon, je ne te raconte
pas
le massacre.
Ils sont redoutables, les protecteurs. Hein.
Oui, mais d'ailleurs, ça tombe bien. Quel art de la transition fantastique. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'on parle du scénario, etc. Il ne faut pas oublier que c'est un FPS, ce n'est pas un jeu d'aventure. Et il y a des séquences qui sont bien, bien balèzes. Je ne peux rien dévoiler, mais autant ça commence un peu gentiment.
Déjà, le premier combat que tu fais contre ton premier Big Daddy, t'en prends plein la gueule. Oui.
Voilà, mais parce que, en fait, voilà, tu t'habitues, mais après, ça devient de la rigolade parce qu'il y a des séquences sur la fin qui sont.
Parce que t'es mieux outillé aussi, t'apprends bien à bien comprendre. Quoi. C'est ça, le cœur. Moi, pour moi, la qualité de BioShock, elle est là. C'est un gameplay qui te laisse effectivement plein de possibilités que tu peux apprendre à bien, bien, bien gérer. Et finalement, les techniques qui te paraissent ostensibles au début ne sont pas forcément les meilleures pour te débarrasser d'un Big Daddy.
Mais je pense qu'effectivement, c'était intéressant de souligner que BioShock, pour certaines personnes, on a l'impression un petit peu, par son univers, par son graphisme, par l'ambiance, que c'est un peu le FPS qui flirte du côté du jeu d'aventure. Ça reste quand même essentiellement un jeu tiré à la première personne.
Plus quoi.
C'est extrêmement à la fin, c'est vraiment balèze. Donc n'hésitez pas, à la limite, si vous voulez juste vous utiliser, enfin profiter de l'aventure, vous mettre en facile, parce que franchement, en termes de gameplay, sur la fin, en normal, voire après, si vous êtes un warrior, vous êtes sur Xbox, que vous voulez déloquer les trucs, c'est vraiment hyper balèze. Donc enfin, c'est pas hyper balèze, mais il y a quelques combats où vous allez vraiment ressortir vos sauvegardes avec plaisir, quoi.
Effectivement. Pour conclure, Raon, un dernier mot sur BioShock.
Oui, même si effectivement on peut lui faire plein de reproches, je me suis permis de pas les faire dans le test pour une seule raison, c'est que ça reste quand même un jeu qui est une putain de leçon pour plein de trucs. Et ça ferait vraiment, vraiment plaisir que beaucoup de jeux prennent le temps justement de travailler un peu plus des détails. Et un niveau de détail qu'on trouve dans BioShock et pas forcément ailleurs, quoi. Je veux dire, il y a des tas d'autres FPS qui sont très très bien, mais celui-ci, il a le petit plus, quoi, que tu trouves pas ailleurs, quoi.
On est assez d'accord. BioShock, c'est sorti le 29 août dernier. C'est sur PC et sur Xbox 360. On rappelle hein, d'ailleurs une exclusivité pour les consoleux. Ça avait été un temps annoncé sur PS3. Finalement, ce n'est que sur 3.6. Et franchement, si vous avez la chance, bande de bourgeois, d'avoir une télé 1080p, bah vous allez vous en prendre une sacrée claque. Juste, ça déchire graphiquement.
Ne l'écoutez pas, je vous dis sur PC avec un souris, une clavier. Voilà, j'ai rien dit.
C'est tellement mieux sur 360. Maintenant, on va enchaîner avec un autre jeu d'action, lui aussi qui fait dans le bourrinage. Hein. Incessant et peut-être plus qu'on ne le croyait initialement, mais désormais c'est sur PlayStation 3 en exclusivité. Il s'agit de Heavenly Sword, un jeu très très attendu par les possesseurs de PlayStation 3 parce qu'on en a vu beaucoup de vidéos, les premiers échos étaient plutôt positifs, c'est un des jeux qui avait plus de buzz.
J'ai déjà émis pas mal de réserves
mais ces derniers temps, lorsqu'on a commencé à avoir vraiment les vrais démos. C'est un jeu qui est prévu le 19 septembre, développé par Ninja Theory. Raon, justement, toi, tu as eu l'occasion de t'y pencher beaucoup plus. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui ?
Eh bien, de la preview jusqu'à nos jours, ça, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a des valeurs de production immenses. Mm-hmm. Il est super joli, il y a beaucoup de taf sur plein de trucs. Mais au final, par rapport à un God of War qui est le titre de base auquel on le compare, bah, ça n'arrive pas à la cheville d'un God of War, il faut être très clair. Voilà.
Mais alors, pourquoi ça n'arrive pas à sa cheville ?
C'est une question de qualité vraiment des mécaniques de jeu, quoi. Ça partait d'une bonne idée, le système des trois gardes était intéressant.
Alors, tu peux nous expliquer juste une seconde ça, le système
des
trois gardes ?
Oui, c'est-à-dire que donc, l'héroïne Nariko a une lame qui lui permet de se battre dans différentes configurations. soit une configuration rapide, soit une configuration de portée, où elle fera plus loin, donc, soit une configuration de force brute. Mmh. Et suivant la situation, le nombre d'ennemis que tu as à l'écran, etc., tu vas choisir une garde par rapport à une autre, sachant que tu peux passer de l'une à l'autre en plein milieu d'un enchaînement. Donc c'est, de ce point de vue-là, il est quasiment irréprochable. C'est-à-dire que l'animation de l'héroïne est fabuleuse et, et c'est vraiment coulant et c'est facile à prendre en main. Quoi.
Ça reste un gros blockbuster, techniquement parlant, en tout cas.
Techniquement parlant, oui, mais en termes de gameplay, c'est-à-dire qu'au final, ça devient répétitif et finalement, le génie du système n'apparaît pas.
Angel, je crois qu'il y a eu l'occasion d'y jouer aussi.
Ouais, moi, je suis d'accord avec Ran, sur tout ce qu'il dit. Et je rajouterais que d'un point de vue mise en scène, c'est quand même dommage que ce soit du niveau de Luc Besson, on va dire. Parce que
Luc, si tu nous entends, magnifique.
C'est d'autant plus dommage que c'est la fille de...
Enfin, t'es d'accord avec moi, c'est vraiment de la série Z, quoi.
Ah ouais, mais quand tu les entends, quand tu les entends parler, c'est une catastrophe.
T'as les frissons de la honte.
C'est une catastrophe.
Voilà.
Et c'est la fille de, du très grand auteur de Discworld, qui est Terry Pratchett, qui a écrit une bonne partie de l'histoire et du script. Et là, je me dis, mais merde alors.
Surtout qu'ils ont fait un énorme effort dessus. Il y a Andy Serkis qui fait la motion capture. Andy Serkis, c'est quand même la personne.
La VO est plutôt bien jouée.
De King Kong.
La VO est plutôt bien jouée, mais alors quand tu vois la VF aussi. Il y a un problème de VF forcément par rapport à la VO, mais ça, on commence à y être habitué un petit peu.
Les persos sont caricaturaux, plutôt ridicules.
Ouais. Voilà, à part le bad guy qui est l'espèce de roi qui veut la Heavenly Sword, qui est plutôt pas mal, tous les autres, c'est des monstres de foire qui, moi, personnellement, je les trouve ridicules. Quoi.
On est en train de dire qu'en fait, on peut se contenter de télécharger la série sur le PlayStation Network. Là, il y a une série en dessin animé qui est plutôt pas mal. Ouais. Là, on petit épisode toutes les semaines. Et on en est au cinquième, là. Mais effectivement... ça m'a pas filé. J'ai téléchargé la démo et ça en même temps, mais finalement, je préfère les dessins animés. Tu vois.
Et pourtant, on l'attendait. Parce que la PlayStation 3 a besoin.
Graphiquement, c'est une démo.
Est-ce qu'on l'attendait pas? Parce que justement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
On en est à
attendre des choses. Pas forcément.
Bonjour.
Bonjour. Je reçois des messages. Qui est donc? Oh, c'est toi. Tu es super, mais ta gueule.
Donc, ouais, on en est à attendre des trucs. Excusez-moi, je suis malade. Donc, je pense qu'on en est à attendre des jeux qui entendent mal. C'est-à-dire, si les productions étaient au niveau qu'on espère, on n'attendrait pas entendre mal. Je sais pas si j'étais clair.
D'accord.
Donc, c'est pas grave. Nous, on a compris. Oui, c'est super. D'accord.
Final, parce que le podcast avance. Donc, Heavenly Sword, ça sort le 19 septembre prochain. Donc, là, dans quelques jours. Hein. Et pour le moment, c'est pas l'enthousiasme débordant.
Non.
Et puis, voilà, nous, on a eu l'occasion de jouer une version. Très avancé.
Mais je ne désespère pas, il y a des jeux qui ont lancé mon intérêt sur la PS3.
On rappelle juste pour l'anecdote qu'initialement, c'était un jeu qui était prévu sur Xbox.
C'est-à-dire qu'ils ont quand même eu le temps d'y penser.
Ça fait 5 ans qu'ils sont dessus.
Et en termes de. Enfin, un beat'em all, aujourd'hui, un beat'em all où tu ne fais que de la baston, où le système n'est pas bon ou chiant. Tu t'attends qu'il y ait un petit peu d'autres choses à faire comme dans God of War, quoi, qu'il y ait des puzzles à résoudre, qu'il y ait un truc où tu as une sensation de faire d'autres choses. Sinon, il y a aussi des puzzles, mais ils sont ridicules. C'est de la vue subjective où tu balances des boucliers.
Judo sera très heureux de parler des Quick Time Events, je pense. évidemment, il a été repiqué à Shenmue.
Bien sûr. Voilà, il faut le dire.
C'est la deuxième intervention de Julo, c'est ça dans ce podcast. Et magnifique, deux mots, superbe, la classe, spontanéité. Quick Time Event qui sont super bien chorégraphiés. Néanmoins.
Oui, les chorégraphies sont nickel.
Ouais, mais bon,
ça a quand même la classe.
Ouais, enfin, mais finalement, quel est l'intérêt, quoi?
Bah, regarder des belles images à l'écran, voilà.
Ouais, voilà,
non, mais il y avait des super idées. Les finishes dans un beat'em all où tu vois des gros plans, des machins, c'était une bonne idée. Maintenant, voilà, si le reste suit pas, ça suit pas. Hein. On va pas faire une chronique, il est pas sorti encore, je crois. Voilà.
Bon, et ben voilà, c'était notre sentiment, en tout cas, quelques jours maintenant de la sortie d'Heavenly Sword. Sentiment qu'on aurait aimé peut-être un peu plus euphorique, mais qui malheureusement. C'est la vérité du terrain, comme diraient certains entraîneurs. Ça n'a pas passé le cap. Bon, pour vous parler d'un autre jeu qui va sortir un petit peu plus tard, c'est le 16 novembre, et puis sur une autre console, mais aussi en exclusivité, il s'agit de Mario Galaxy. Mario Galaxy, hein, je crois que c'est l'un des jeux... Enfin, je crois bien évidemment que c'est l'un des jeux les plus attendus de la Nintendo Wii. Je serais même tenté de dire l'un des rares jeux de la Nintendo Wii. Julo, tu as eu l'occasion de t'y essayer?
Non.
Pas du tout. Alors ça me fait plaisir, j'avais envie de te faire parler.
Non, c'est vrai, je l'ai regardé quand même.
T'as regardé.
Alors vas-y,
qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que ça, c'est important que tu aies regardé.
J'ai recommencé.
Oui, parce que Mario Galaxy, c'est un jeu qui se jouait deux. On a appris lors de l'E3, on pouvait participer avec le deuxième Wiimote, récupérer les étoiles.
Bon, alors, ta sensation.
Non, non, ma sensation, c'est que ça a l'air vraiment très bien fini, comme d'habitude avec les jeux Nintendo. Ça a l'air très sympa, etc. Plein de nouveautés, évidemment.
Comme.
Et mais ce qui m'inquiète, véritablement...
Ma question ne t'intéresse pas, donc. Je la reformulerai tout à l'heure à Rand.
Donc, ce qui m'inquiète, je veux dire, un peu plus.
Un petit peu.
Voilà, un petit peu, on va dire. Oui. C'est effectivement cette propension qu'a le jeu à avoir des tout petits niveaux. Rand en parlait d'ailleurs dans sa preview. Et c'est vrai qu'on avait envie de retrouver toutes les sensations qu'on avait eues avec Mario 64 à l'époque, à découvrir des niveaux gigantesques, à avoir envie d'aller partout, de trouver comment aller partout, etc. Et là, c'est plus des petits trucs qui se passent sur des petites planètes.
Des micro-événements sur des mini-planètes.
Voilà, c'est un peu ça. Et moi, vraiment, j'ai juste évidemment regardé Rahan y jouer, et puis avec quelques niveaux. Donc voilà,
il y a des niveaux qui sont quand même plus gros que ceux où tu as une succession de planètes, où tu passes de l'une à l'autre effectivement assez rapidement. Tu as une petite énigme rapide à résoudre sur une planète et tu passes à l'autre. Mais il y a des niveaux qui sont un peu plus importants. Déjà, celui de l'abeille, qui est toujours un des premiers niveaux.
Justement. Mario qui passe en abeille, ça nous rappelle un petit peu Mario avec la face Tanuki de Super Mario Bros 3, mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ou c'est pas juste un peu ridicule ?
C'est une mécanique qui te permet de résoudre certaines problématiques spécifiques au niveau dans lequel tu te transformes en abeille. Donc,
quand il se transforme en raton de laveur, c'est pas moins ridicule, non ? Attention, ne me regarde pas comme ça.
Je sais pas, je préfère un raton laveur. Je sais pas, j'ai plus d'affect avec
ça. Mais c'est la même chose, c'est juste une mécanique de jeu. C'est vrai qu'il a l'air un peu ridicule en Maya la veille. Mais bon,
c'est la faute de Maya en fait, c'est ça.
Moi j'avoue, mais je le trouve plutôt sympa.
Moi j'avais une question, franchement, pour avoir eu la chance d'y jouer un petit peu. Je trouve que.
Pose-moi tes questions.
C'est l'un des premiers jeux qui montre que la Wii n'est pas qu'une simple GameCube ou même parfois sur sous GameCube. Techniquement, c'est un petit, c'est l'un des jeux les plus léchés quand
avec
même,
Metroid,
qu'on a eu l'occasion de voir sur Wii.
On en parlera tout à l'heure, mais effectivement, oui, ça reste du Mario, donc c'est quand même un design très particulier, assez acidulé, avec des couleurs simples et tout. Mais c'est vrai que c'est super propre, c'est vraiment joli, et tu sens que ça a été vraiment bossé à ce niveau-là.
Et là, j'ai une question d'importance, et je me fais le relais des lecteurs des forums de Gameblog.
C'est bien ça.
Je vous aime tous, surtout vous, les femmes, qui disait que justement on avait pu le noter sur certaines vidéos, que certaines fois la caméra en fait ne suivait pas Mario, Mario avait la tête en bas et que du coup on le voyait en transparence. Comment c'est jouable?
Alors, donc c'est très important, il y a des phases où on peut manipuler la caméra comme dans Mario 64 avec la croix directionnelle de la Wiimote, donc en la faisant pivoter sur le côté dans une direction ou dans une autre. Et il y a des phases où on a pour seule influence sur la caméra que la possibilité de la recentrer derrière Mario avec le bouton C du Nunchuk. C ou Z, je ne sais plus. Le bouton qui est...
C'est
qui est
Z,
je ne sais plus. Bref. Donc, effectivement, dans les phases où on est sur des petites planètes, on ne peut pas changer la vue de caméra en dehors de ce recentrage derrière Mario. Et donc, on se retrouve la tête en bas régulièrement. Et personnellement, en fait, si au début c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, en fait, au début j'avais peur de ce détail-là, et finalement, je pense que ça passe plutôt bien. Et sur les niveaux auxquels j'ai pu jouer, ça pose pas de problème particulier.
Du coup, pour l'instant, tu as pu faire combien de niveaux à peu près ?
4.
4 niveaux, c'est ce qui correspond à combien de temps de jeu ?
4 plus un secret que j'avais trouvé sur le truc, mais c'est qui était tout petit.
Parce que t'es trop fort.
Ouais, parce qu'en plus il l'avait pas vu chez Nintendo. Oh là là. Et chez la web. Mais
comment t'as assuré ?
Spécial dédicace à Vince. et du coup la première sensation alors ?
Bah la première sensation c'est que j'ai vraiment vraiment envie de voir la suite, donc c'est bien parce que c'est effectivement c'est que les premiers niveaux, et puis il y aura certainement des tas d'autres trucs après. Il y a des niveaux sous-marins. Moi j'aime bien les niveaux sous-marins. Il y aura plein d'autres trucs après, mais pour parler
d'un sous-marin dans l'espace, j'aime bien le concept, moi, déjà.
Bon, y a de la flotte sur certaines planètes, quand même.
Certes, oui, la Terre.
Par exemple, tu vois.
La Terre, sortie de là. Donc,
ça n'a rien d'incohérent.
Oui, mais bon, la coke fonctionne bien au Japon en ce moment. Enfin, bon, bref.
Ah bon,
je ne sais pas de quoi il parle. En vous remerciant.
Il y a quand même un autre Mario qu'il ne faudrait peut-être pas oublier en attendant que Mario Galaxy sorte, puisque c'est pour le 19 novembre. C'est Super Paper Mario.
Ah oui.
Qui est quand même un très grand jeu.
Très grand jeu.
Et ouais. Et qui est très autoréférentiel, qui est à la base vachement gamin dans l'histoire et tout ça, mais qui sait séduire.
C'est sur Wii aussi ?
Oui, c'est sur Wii aussi.
Bien sûr.
Ah oui, d'accord, c'est Noël Wii, Noël Mario,
je veux dire. En fait, c'était un jeu GameCube à la base.
Je savais bien, j'en avais entendu parler.
Comme le fameux Zelda Twilight Princess, reporté à plus tard pour sortir sur Wii.
C'est Intelligent Systems qui a fait le jeu et c'est brillant.
Ouais,
donc
carrément
avec une
brillant.
espèce de passage entre phase vue de profil traditionnelle en 2D avec des transmutations en pseudo 3D.
C'est le principe de base du jeu. Donc, t'as un gros trou dans le niveau. Hop, tu passes en vue 3D. En fait, tu t'aperçois que tu peux monter sur la montagne, etc. Mais en plus de ça, ce jeu, il est bourré de références au Mario passé. De néo-rétro, de touches néo-rétro avec des décors pixelisés.
Il y a des passages avec des calculs carrément, enfin des codes de programmation.
Attends, il y a même une simulation de drague où tu te retrouves toi à la place de la gonzesse.
Un passage de shoot 'em up aussi. Voilà, enfin, il est bourré de plein de trucs super sympas et
les trades
de références géniales.
Ah ouais. Les trades sont géniales.
Parce que j'en ai vu une avec Bowser qui faisait Goa.
Je sais plus si c'est Bowser, mais il y a aussi à un moment donné il y a un personnage qui fait Sega.
C'est pas possible.
Je suis désolé, c'était plus fort que moi.
Non.
Que des trucs comme ça, c'est bourré de trucs comme ça.
C'est énorme.
Ouais, ouais.
Ça c'est classe. Ok, donc Super Paper Mario, un grand action RPG.
Ouais. Non, sort le 14 septembre si mes souvenirs sont bons. Et vraiment. 17
septembre.
Il faut se jeter dessus quand on a une Wii.
Ok, donc finalement, donc Super Paper Mario, on vous le dit, foncez-y, banco. Mario Galaxy, bah, on a vraiment envie d'en voir plus, d'en savoir plus. On
et
a un peu de temps.
Quand même. Faut quand même.
Se encore
quand
un petit
même
peu.
Ça va être objectif. C'est vrai que pour l'instant, on attend vraiment de voir qu'on a un peu peur, mais au moins ils prennent des risques et c'est plutôt bien.
Et puis, ce qui est symptomatique, c'est qu'à chaque fois qu'on comparait avec un autre Mario, on parlait de Mario 64, c'est dire à quel point finalement le Mario Sunshine est passé un petit peu inaperçu. Et on espère très clairement que ce Mario Galaxy va redorer un petit peu le blason de la saga Mario, on l'espère.
On a
vraiment
dit ça pas mal sur Gameblog à propos de Mario Sunshine. Mmh. On a eu plein de commentaires dans les forums de tout un tas de lecteurs qui l'avaient trouvé génial en fait. Donc voilà, je voulais juste
dire. Il y en a autant qui.
Il y a des gens qui ont aimé ce jeu.
Et ben pas nous.
Ces gens seront bannis dès demain. Tenez vos comptes, en vous remerciant. Mais non, on rigole. On va parler d'un autre. On a quelques autres jeux, à parler. C'est pas très français, mais enfin bon, ça nous fait plaisir de le dire. C'est Metroid Prime 3 Corruption, parce que pour une fois qu'il y a des jeux, franchement,
voilà,
profitons-en.
Voilà, parler Julo, vas-y, profite.
Donc, et là, 26 octobre, l'arrivée de Samus Aran, cette fois-ci sur Wii.
Voilà, Julo. Tout à fait. Alors là, là c'est ce qu'on peut appeler un jeu quand même core gamer, voilà, dans ce flow de jeux casual. Et ça fait plaisir, parce que c'est bien fait, c'est joli, et nos premières impressions ont été vraiment excellentes.
De toute manière, je te rassure, si t'es pas core gamer, on n'a pas compris ta phrase. Du core gamer dans ce flow de jeux casual, plein de mots.
Elle était si compliquée, ma phrase.
Mais non, elle était bien, mais elle s'adresse au core gamer.
On travaille à la télé maintenant, tu sais,
elle
comprend plus tous les mots de vocabulaire.
Alors, bon, qu'est-ce qu'apporte la Wii, justement, avec...
Alors déjà, moi, pour faire un petit retour en arrière, moi, je me rappelle à l'annonce de cette manette Wii plus Nunchuk, etc. Le premier truc que je me suis dit, putain, génial, enfin, on va avoir un truc qui va pouvoir rivaliser avec le souris-clavier pour les FPS. Ouais. Donc, ça va être fantastique. On va diriger le clavier avec la main gauche, avec le Nunchuk, viser avec la main droite, tirer exactement où on veut de manière hyper instinctive, etc. Donc, j'ai vachement regardé les premiers FPS qui sont arrivés. Donc, il y a eu Medal of Honor, Red Steel. Ouais. Tous les deux catastrophiques, catastrophiques au niveau de la jouabilité. Il faut le dire tel que c'est, quoi. C'était pas jouable, c'était chiant, etc. J'étais super déçu. Et donc mes premiers instants avec Metroid Prime, ça a été une révélation parce que c'est ultra jouable. Mm-hmm. C'est vraiment, tu fais exactement ce que tu veux. Alors certes, tu tournes un peu plus lentement qu'avec une souris, mais enfin je veux dire, c'est vraiment instinctif et jouable, quoi. Et puis, ce jeu est bourré de plein de trucs qui te mettent dans l'ambiance. Ouais. Dès le départ, tu commences dans ton vaisseau avant d'arriver à l'endroit. On te met très, très doucement dans le scénario, mais avec plein de petits détails partout. Tu peux toucher à tout dans ton vaisseau. Tu diriges la main de Samus. Ouais. Quand tu ouvres une porte, il faut tirer la Wiimote, la tourner d'un côté,
visuelle,
la remettre.
Et par les gestes, est très, très bien étudiée.
Super bien fait. Mm-hmm. Et puis, bon, alors certes, c'est de la Wii, donc c'est pas fantastiquement beau.
C'est aliasé à mort sur une télé HD.
Voilà. C'est aliasé parce que aussi on y jouait en YQV sur une... c'est en 480p, quoi. C'est un peu moins aliasé quand il joue en cinch. Mais c'est vraiment super bien à prendre en main.
Parce que c'est
ça démarre très bien. Et il y a ce fameux lasso également aussi que tu as dans la main gauche avec le Nunchuk que tu peux balancer. Ça, c'est une nouveauté. Donc tu le balances sur des éléments pour les enlever, sur des boucliers des ennemis pour les enlever, etc. Enfin, c'est vraiment hyper instinctif, jouable, c'était immersif à mort.
En tout cas, visiblement, la manière dont t'en parles, c'est que ça t'a vraiment captivé. C'est le retour de Samus en pleine forme.
Je suis pas encore allé très 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 loin dans le jeu, mais je vais m'y remettre dès ce soir.
En tout cas, les premières heures de jeu sont super concluantes.
Ouais, vraiment, j'adore. Ouais.
Mais ça change un petit peu des autres Metroid ou pas? Parce que
c'est un peu le même esprit. D'ailleurs, c'est
très similaire d'un épisode à l'autre.
Ouais, c'est t'as les mêmes morceaux qui reviennent, les mêmes musiques. Les musiques sont fantastiques. Les musiques sont vraiment fantastiques. Et t'as les petits morceaux, dès que tu découvres un truc, etc. Enfin,
pas mal.
c'est toujours un jeu aussi d'action, pas de plateforme, j'irai pas jusqu'à là, mais enfin tu dois sauter, etc.
D'ailleurs, on sait que Nintendo n'appelle pas ça un FPS, mais
un first person action, FPA,
voilà,
ouais.
Un FPA. Donc ça
oh là 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 là, marketing.
Ouais, ouais.
Que de marketing.
Mais en tout cas, c'est, enfin voilà quoi, c'est vraiment bien.
Mine de rien, quand même, là, on a cité deux jeux déjà, Super Paper Mario et ce Metroid, qui sont donc sur Wii et qui.
Et si on ajoute Mario Galaxy, ça en fait trois.
Ouais. Non non, mais qui ont l'air vraiment gamer quoi, intéressant. Ouais. Voilà, on avait quelques inquiétudes il y a quelques semaines, on les évoquait.
Ouais, mais en fait, c'est toujours par grappe, ça sort. Puis après, une fois qu'on aura bouffé ces trois-là,
ben on va attendre.
On va attendre.
Enfin, en attendant, ça pourrait être pire, hein. Tu pourrais avoir une PS3, comme moi.
Je...
comme dit ça, on a l'air triste.
Deux secondes de silence, s'il vous plaît.
Quelqu'un peut lui prêter son
épaule. Arrête, après, on va encore dire qu'on est en train.
Voilà. nous allons reprendre le cours normal de ce podcast. Ok, donc Metroid Prime 3, Corruption, le 26 octobre. On aura l'occasion de revenir dessus. En tout cas, visiblement, Julo,
j'ai kiffé.
Tu nous en reparleras, hein, parce que t'en parles bien et que ça a l'air assez sympa. On va parler d'un jeu qui sort beaucoup, beaucoup plus rapidement, un jeu beaucoup, beaucoup plus violent, un jeu interdit aux moins de 18 ans, ça place le truc directement, c'est Stranglehold, qui sort sur Xbox 360, qui a été reporté légèrement sur PlayStation 3, qui ne sort pas sur PC, si, je ne sais pas.
Un jour, mais ça est un... Tu sais, ils avaient multiplateforme, et puis finalement, non, et puis finalement, je ne sais pas, il y a des chèques qui circulent derrière.
En tout cas, c'est le 14 septembre, et ce sera déjà, au début, en tout cas, sur Xbox 360. Tu as eu l'occasion d'y jouer, CAF.
Ouais.
Première sensation sur ce jeu avec Shoyun Fat.
Comme plein, il y a plein de gens qui ont dû avoir la même sensation que moi, parce que la démo est sortie en fait, sur le PlayStation Network la semaine dernière, ou ce week-end. Et les reviews commencent à sortir sur les sites américains, donc les versions review se baladent. Et pauvre John Woo, quoi.
Ah ouais.
c'est très.
Qui
John, tu sais, avec les colombes, Oh, les pourris, t'as
pas.
Je vais la titer.
Ouais, bah pareil. Eh ben, on a honte, c'est super. Mais vraiment, dans la série jeux d'action, quand tu passes derrière, ça devait être un Max Payne, mais en mieux, avec des bullet time de la mort, des scènes d'action fantastiques.
Pendant qu'on dirait. Les rats, on se congratule de leur humour opérable. Tel des complices.
Un jour, on vous la fera en vidéo.
Je lui disais que moi, je l'ai trouvé drôle, ça.
Et du coup, on se retrouve avec un jeu qui est moyennement maniable, qui est pas très beau. Ouais. Le jeu d'acteur de Shoyun Fat, ça reste ce que c'est, mais en 3D c'est encore pire.
Attends,
et puis
tu critiques pas de Shoyun Fat, s'il te plaît.
Non, mais j'adore Shoyun Fat, tu vois, t'es un grand fan de Hard Boiled devant toi.
Et
le coffret
collectionnel,
c'est censé être la suite.
Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Stranglehold,
c'est la suite. C'est le même inspecteur, ça se passe dans le même endroit.
Le titre du film en français, À toute épreuve.
Voilà,
pardon. Les gens vont pas le trouver.
Exact. Et qui est voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est en fait regarder le film et voilà, vous arrêtez tout de suite parce que le jeu, pour l'instant, non, je suis très dur. Le jeu aurait eu un gros potentiel, c'est-à-dire que tu as des scènes d'action. Le but du jeu, c'est d'enchaîner. Tu vois les combos dans un jeu de skate, et c'est pareil, sauf que là, ils ont porté le principe sur un jeu d'action.
À la base, ça devait être sur le papier un méga Max Payne.
C'est un méga Max Payne, c'est-à-dire que tu arrives dans les escaliers, par exemple, d'une petite ruelle, tu sautes sur la rambarde,
bullet time,
et là, tu dois tout enchaîner. Et plus tu enchaînes les mecs dans des séquences hyper compliquées, dans des positions impossibles, plus tu fais de points. Donc, oui, alors ça va très vite quand même, mais il y a des séquences. Par contre, où là tu vas te faire, t'as une espèce de, ça va friser, et là tu vas te retrouver dans une petite scène, une cutscene en 3D temps réel avec genre 3, 4, 5 mecs qui vont genre t'as trop piégé, et là tu fais ouais, mais non, je suis trop fort, et là hop, ça va se friser, et tu dois enchaîner les mecs, donc tu dois esquiver les balles, tout va au ralenti, tu dois shooter les mecs, tu passes d'un mec à l'autre, et si ceux que t'as pas shooté à ce moment là, faut que tu te les fades en temps réel, enfin en mode normal juste après. Donc il y a plein de petites bonnes idées comme ça, et finalement le jeu, tu te retrouves avec un jeu d'action qui est en fait ultra moyen pour l'instant, et j'ai bien peur qu'il le reste, parce que ce qui sort des premières reviews que moi j'ai pas, je l'ai pas, c'est pas moi, hein, je l'ai pas fini, apparemment il finit en 5 heures.
Ah oui.
Alors
c'est
5 heures.
Ça fait court quand même.
Enfin, attention,
parce que là j'ai lu, donc je citerai mes sources peut-être plus tard, mais les mecs ont fait, il y a un multi en fait dedans, et après les mecs ont fait, et en plus ce multi est un des plus péraves de la Terre. Et là ça m'a donné vachement envie.
5 heures de jeu, oui, autant aller voir une escrimeuse. Hein
c'est pas donc c'est vraiment très très décevant. Shoyun Fat quoi.
Oui, c'est un peu.
Je sais même pas de qui vous parlez depuis tout à l'heure.
Mais c'est normal.
Tu vois pas qui c'est ?
Non, mais enfin voilà quoi, mais il fait du karaté quoi, non ? C'est ça.
La rédaction de Gameblog.
Comment une ou deux personnes sur le forum lui mettent une photo quand même.
Parce que justement, là vous parlez d'un film, tu vois, que Julo a vu au moins 14 fois, donc toi à peu près pareil. Alors moi, non seulement je l'ai jamais vu de ma vie, mais je sais même pas ce que c'est.
D'accord.
Mais tu sais qu'il faut pas le dire. En fait, faut pas le dire, parce que là, t'es ridicule.
Tu l'as vu, Tigre Dragon, non ?
Ouais.
Bon voilà, c'est le.
C'est le show. Oh bah...
C'est le mec.
Oui, mais enfin, version moderne. Oui,
mais cela dit, les rôles qu'il a fait avec John Woo n'ont rien à voir avec ça.
Ah, rassure-moi, okay. John Woo, il y a donc des pigeons au ralenti qui passent dans le fond.
Des colombes.
Des colombes.
Bah, bien
des
sûr.
Pigeons, parfois.
Bien sûr. Avec des scènes en 360.
Très bien.
Ou des scènes où tu tournes sur toi-même.
C'est
et
donc réellement.
Ah, c'est un John Woo, oui.
Parfait. Bon, on va quasiment conclure avec Folklore, très rapidement, qui sort le 17 octobre. Version japonaise qui n'a pas fait l'unanimité.
Non, mais alors je voulais juste en parler parce que c'est très très décevant. Il y a un boulot de design fantastique avec des personnages qui sont plutôt bien vus, un peu stéréotypés, ok. Mais en revanche, les ennemis, les modes de combat, etc., il y a plein de bonnes idées dans ce jeu. Et dès la prise en main, dès qu'on essaye d'aller un peu sur la botte, on est sur des rails vraiment. C'est un beat'em all avec des rails, tu peux pas du tout déplacer. Mais bon, c'est un peu décevant. C'est uniquement PS3, c'est très joli, donc c'est pour cartonner sur l'écran 1900 par 1200 pour mettre plein la vue. Mais en revanche, c'est un beat'em all au final, très avec un gameplay un petit peu mou du genou, quoi, malheureusement.
D'accord, bon, on vous en parlait parce qu'on sait que.
Non, par contre,
probablement, il y en a certains qui vont être attirés parce que les trailers et tout ont l'air sympas.
Mais il faut que des développeurs en fait débauchent les designers parce que les monstres sont fabuleux, les boss de fin de niveau sont vraiment hallucinants, les ennemis sont bien, mais voilà quoi.
Le jeu est
pas nul. Tu vas en fait il est pas nul hein, c'est mais je, j'ai,
bien,
j'ai été déçu pas quoi. Non bah voilà, mais ça fait encore un jeu de plus sur la longue liste des trucs PS3 qui sont super beaux. Mais
il faut laisser une chance au produit.
Je ne citerai pas de qui vient cette phrase, mais
véritable philosophie.
Exact. Mais j'ai laissé sa chance et pour l'instant c'est pas gagné.
Alors justement, juste avant de conclure, on va aussi revenir très rapidement sur un dernier jeu, je ne sais pas vraiment si on peut l'appeler comme ça, mais à qui on a envie de laisser une chance en tout cas, parce que après la stupeur de sa révélation, on a eu l'occasion, Raon et Julo, de s'y essayer. Il s'agit de Wii Fit, qui est prévu donc sur Wii, pour 2008 chez nous en France. Alors les gars, qu'est-ce que ça vaut ce truc ? C'est un jeu ? C'est pas un jeu ? Ça sert à quelque chose, à part se peser ?
Alors moi je vais dire que c'est pas un jeu, mais il y a peut-être Angèle qui va me dire que c'en est un.
Vu la tronche de Raon, c'est mal barré. Hein.
Ouais, non, en gros, c'est d'abord un accessoire. Voilà. Ouais. Donc c'est une espèce de pèse-personne sur lequel on grimpe et qui reconnaît en fait l'endroit où tu mets ton poids, à droite, à gauche, devant, derrière, etc. Et donc après c'est toute une série d'exercices pour se muscler ou rester en forme.
Ça, voilà. Ça vous a semblé efficace ?
Oui, c'est assez fatigant, comme un dance ou un match. Enfin, tous ces jeux-là où tu dois bouger, finalement, ça te fait.
C'est précis.
C'est ultra précis.
C'est du niveau de. Le périphérique fonctionne très bien.
Le périphérique,
et c'est du niveau d'Aito Kinetic en termes de qualité de maintien de la forme, quoi. Voilà, ça va pas plus loin qu'Aito Kinetic, ça va pas. C'est pas en dessous.
On sait pas trop encore, parce que la version qu'on a vue, nous, c'était une série de mini-jeux. En fait, il y avait pas le programme, c'est-à-dire le moment où tu rentres ton poids, ta taille, et puis après, tu reviens tous les jours.
Vous avez pu essayer l'espèce de pseudo-simulation de foot où on doit faire des têtes, c'est ça ?
Voilà, en fait, ce qui m'amusait le plus que les
ça, c'est la vraie
que les exercices.
Quoi.
Ouais,
plus que les exercices où tu dois faire des étirements, etc., qui sont un peu comme ça avec une nana à l'écran, etc. Les mini-jeux où tu dois faire du hula hoop, où tu dois faire du foot, etc., c'est plus rigolo. Ouais.
Du hula hoop, ça marche bien ?
Le hula hoop, c'est rigolo. Ouais.
Ça repère en fait sur lequel. Enfin, où est-ce qu'on balance le
plus ? En tout cas, c'est le jeu où t'as le plus l'air d'un con. Quand...
Parce qu'effectivement, tu fais les mouvements sur la balance pour que les cerceaux continuent à tourner. Et le truc où t'as l'air encore plus con, c'est qu'à un moment donné, t'es obligé de te pencher sur la droite ou sur la gauche parce qu'il y a deux personnages à l'écran qui te balancent des cerceaux supplémentaires que tu dois réussir à attraper avec la tête. Donc t'es obligé de te pencher comme un con tout en remuant du cul. Et quand j'ai vu Julo, parce que j'étais évidemment derrière lui pour bien regarder, c'était extraordinaire.
Qu'est-ce que tu sous-entends, Raon ? Je ne comprends pas très bien.
Rien de particulier.
Très bien.
Il parle de mon corps, c'est tout.
Bien sûr.
Ce n'est pas sale.
Ils me font peur. Vous allez partir d'ici très vite. Ok, donc Wii Fit, on aura bien évidemment l'occasion de revenir dessus puisque c'est prévu pour 2008. Mais en tout cas, cette première prise en pied.
Moi, j'aimerais vraiment qu'ils fassent d'autres trucs avec cette putain de balance, quoi. Je suis sûr.
Parce que si on avait Candy, nous avons des concepts surréalistes.
C'est pour ça que je suis curieux de voir ton imagination.
Mais je suis pas Candy, moi, j'invente pas un jeu comme ça on the fly. Mais effectivement, je suis sûr qu'il y a plein de trucs que tu peux faire avec ça.
Avec
je sais
toi,
pas, une simulation
un
skate,
sexuel.
Par exemple, un truc, un jeu de skate avec ça, ça peut être vachement sympa. Quoi.
Ça marche très bien en tout cas, parce que c'est vrai que la précision de la reconnaissance de ton poids, etc., c'est vraiment impressionnant. Ça marche super bien.
En tout cas, vous me rassurez parce que Candy aurait dit un jeu de sniper. Je sais pas comment, mais enfin, il aurait trouvé une manière ou une autre. Ok, donc Wii Fit, on reviendra dessus. Ah, Angel veut dire ajouter
une idée de jeu. C'est-à-dire, c'est de faire la statue. Voilà.
Très bien.
Le jeu, c'est super ludique, ça.
De rester immobile.
Personnellement, tous les matins, j'y joue.
Exactement, le plus longtemps possible.
Eh ben, mais il y a un jeu justement comme ça. Enfin, tu dois rester sur un pied. Et en fait, ton équilibre doit rester en plein milieu du truc. Et voilà quoi, tu dois pas te mettre sur une jambe et essayer de rester bien.
Alors là, si le son n'est pas bon, c'est pas grave parce que en fait tu vois, un jour on vous filmera ça, mais là il y avait un micro pour Gilo et Angel, et Angel l'a arraché des mains de Gilo.
Ouais, parce que j'achète,
qui a résisté, mais il perd à la fin.
Bah écoutez, en tout cas, vous avez compris l'idée, on peut lancer le Wi-Fi Toton si vous avez d'autres idées de concept débiles ou super intéressants pour Wi-Fi.
Avec la balance, ouais, non, mais balancez-le
sur les forums. On attend vos idées. Voilà, avant de.
Et après, on les revendra à Nintendo et on sera plein de pognon.
Ah, ce serait cool.
Merci,
ça.
Les gars.
Ce serait cool. Avant de conclure ce podcast, puisque là, on arrive vraiment à la fin, juste, on avait envie de revenir sur un fait marquant, en tout cas pour ceux qui aiment le jeu vidéo et le jeu vidéo en version VO. Il s'agit de Blue Dragon et quelque chose qui.
Dragon.
Oui, Blue Dragon. Tu m'as cassé dans mon élan. Justement, version preview que nous avions l'occasion de tester. Français, anglais, japonais.
Voilà, et fort heureusement, on avait adoré les doublages japonais, mais non.
Qu'est-ce qu'on trouve, Julo ?
Eh bien, on trouve français, italien et compagnie. Et super. Le japonais a disparu, et voilà quoi.
Voilà, et ça
c'est un scandale parce que c'était les seuls doublages qui étaient à peu près corrects. Parce que franchement, les doublages français sont. Je vais pas dire médiocre, ils sont.
Tu voulais dire merdique, c'est ça ?
Merdique, voilà. Excuse-moi, j'ai poli.
Vas-y, lâche-toi de temps en temps.
Ok, je me lâche. Alors, les doublages français sont merdiques, voilà.
Je le sais lâcher.
Dis donc. Bref, voilà quoi. Et c'était un petit coup de gueule, comme ça, pour terminer.
Bah, c'est clair, on a été vraiment déçus. Et puis vous aussi, si vous êtes fan de jeux vidéo en VO, franchement, l'avènement du DVD devait nous apporter ce genre de complément. Et c'est vraiment dommage de ne pas le retrouver pour finalement des. Considérations qui sont purement économiques et mercantiles, il n'y a pas assez de place, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on fait le DVD italien.
Ah, parce que les Italiens et remettez les Japonais, merde.
Non, mais voilà, qu'on fasse une version pour les Italiens, je suis sûr que les Italiens auraient aussi envie d'avoir du Japonais. Hein, on n'est pas les seuls en France à aimer la VO. Voilà, eh bien, on conclut notre podcast qui concernait un petit peu les jeux qui ont fait BioShock ou vont faire Mario Galaxy, il y en avait d'autres aussi, l'événement dans les jours, semaines, mois à venir, il y en a bien d'autres. Comme on vous l'a dit en début de podcast, on aura l'occasion de revenir dessus sur gameblog.fr, dans les podcasts de gameblog.fr. Maintenant, vous le savez, hein, franchement, si vous ne le savez pas, c'est une honte. C'est tous les mercredis, votre rendez-vous podcast avec la rédac de Gameblog. Nous, on vous dit rendez-vous quand ?
Mercredi prochain !
Voilà,
il a compris.
Sur gameblog.fr. Ciao tout le monde ! Ciao, ciao.
Ciao.